Il est 18h15 à Niamey, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre à présent votre émission radiophonique journalière de débat et d'échange sur des questions d'actualité ou de société avec des acteurs et personnes ressources que nous invitons à se teuffer. Le rendez-vous du forum du studio Kalangou, c'est du lundi au dimanche de 18h15 à 19h. En français, Hausa et Zarma, grâce à notre réseau dynamique de 38 radios partenaires qui diffusent nos programmes en direct dans toutes les 8 régions du Niger. Le commentaire composé en français, signification, atout et méthodologie pour le réussir, est le thème que nous vous proposons aujourd'hui à l'approche de la date des épreuves écrites du baccalauréat qui démarreront au Niger le 10 juillet 2019. L'exercice consiste à expliquer un test et ses enjeux de manière ordonnée et structurée. Le commentaire composé constitue en effet chaque année l'un des 3 sujets au choix de l'épreuve de français du baccalauréat nigérien. Un exercice dont la maîtrise est importante pour tout locuteur de la langue française et en particulier pour les candidats des séries littéraires. Pour mieux comprendre les connaissances requises pour bien faire ce travail, il est important de se poser les questions suivantes. Que signifie un commentaire? Qu'est-ce qu'un commentaire composé? Quel est son but? Quelles sont les différentes parties d'un commentaire composé? Quelle est la méthodologie nécessaire à la rédaction d'un bon commentaire composé en français? Quelles sont les démarches à respecter? Qu'est-ce que la lecture méthodique? Comment bien bâtir son plan pour une bonne rédaction d'un commentaire composé? Quelles sont les compétences que doivent avoir les élèves pour réussir un commentaire composé? Quelles sont les difficultés que rencontrent souvent les candidats à cette épreuve? Quels sont les critères sur lesquels les correcteurs des épreuves de français se basent officiellement chaque année pour noter les candidats en commentaire composé? Quel est l'intérêt d'apprendre à faire un bon commentaire composé pour ses futures activités littéraires? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons dans ce studio 2 enseignants de la langue française au lycée. Il s'agit de M. Joseph Aboubakar, enseignant de français au complexe scolaire privé Elim. M. Joseph Aboubakar, bonsoir.
Bonsoir.
Et M. Issa Garba, enseignant au lycée Issa Korombé de Niamey. M. Issa Garba, bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation de ce forum, Michel Dégé. Pour commencer, que signifie un commentaire, Monsieur Joseph Aboubakar, et le commentaire composé en particulier?
Merci. Nous avons plusieurs commentaires. Il y a le commentaire littéraire, le commentaire juridique, philosophique, etc. Il y en a beaucoup. Nous, en français, nous l'appelons le commentaire composé. Pourquoi l'adjectif composé? Composé signifie structuré. Selon un plan thématique. Ce sont les différents thèmes qui sont analysés. Donc le commentaire composé se fait toujours à partir des centres d'intérêt. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure selon un plan thématique? Ça signifie que ce sont les différents thèmes dominants qui sont analysés dans le commentaire composé. Le commentaire composé est le sujet numéro 2 de l'épreuve de français au baccalauréat nigérien, série A, D, C et E. Maintenant, le commentaire composé, c'est une analyse approfondie et méthodique d'un texte. Commenter un texte, c'est mettre en valeur ses centres d'intérêt. Le commentaire met le fond et la forme en relation, les deux qui vont ensemble. On ne fait pas le commentaire de manière linéaire, on ne fait pas non plus le commentaire de manière séparée, le fond et la forme séparées, ça ne se fait pas. Donc c'est le fond et la forme qui sont constamment mis en relation. Le fond, ça signifie quoi? C'est le contenu, le sens du message, la portée du message de l'auteur. et la forme, c'est la manière dont le message est dit. Le style, par exemple, de l'auteur, cela fait partie de la forme, c'est la forme du texte. Voilà.
Quel est le but que vise le commentaire composé, M. Issa Gaouba?
Le but du commentaire composé, c'est d'amener les élèves, plus précisément les candidats, à acquérir une capacité d'analyse et d'interprétation des faits. Ces faits sont le plus généralement représentés à travers le texte qui est l'objet d'étude au candidat. Comme il a dit, les faits et les textes n'ont pas les mêmes formes. Un texte descriptif, un texte narratif, un texte conversationnel, argumentatif et informatif, ils n'ont pas la même structure. Au prime abord, déjà, l'élève, dans la forme, il a des préjugés souvent par rapport au texte, par rapport le plus souvent par rapport à la longueur du texte. Mais comme généralement le texte, c'est généralement un texte court qu'on présente au candidat, compris entre 20 et maximum 30 lignes. Donc, c'est d'initier vraiment l'élève à une réflexion, une analyse qui est purement scientifique. C'est facile pour la jeunesse aujourd'hui d'interpréter un accident de circulation, une série télévisée. J'ai dit même un match de football, juste la séquence où Messi ou bien Cristiano va rater un but, ça suscite un commentaire, un débat chez la jeunesse. Mais ici, paradoxalement, c'est un texte qui a un intérêt littéraire qu'il faut interpréter. La production, le travail, le sens qui est caché, comme il a dans le fond, dans le contenu, et même entre les lignes. Parce qu'il faut que l'élève ait une certaine capacité de voir ce que l'auteur veut faire comprendre au public et même le non-dit. C'est-à-dire le caractère explicite et implicite de son récit.
Ça veut dire que le commentaire composé se base toujours sur un extrait de texte qu'on donne au candidat.
C'est toujours sur un extrait de texte. Voilà. Elle porte toujours sur un texte littéraire.
Monsieur Issa Gaouba, quelles sont les différentes parties d'un commentaire composé alors?
Comme n'importe quel exercice littéraire, on peut dire qu'il a trois parties. L'introduction, rapidement, j'ai toujours dit à mes élèves, la méthodologie, elle est facile. Pour l'introduction, en respectant les quatre étapes, le contexte général ou bien la contextualisation. Ensuite, ramener l'auteur et son œuvre, la présentation du texte ou l'idée générale, et dans certains documents aussi, la problématique. Ensuite, l'annonce du plan. Donc maintenant, ça, c'est de l'introduction. Pour le développement, c'est les centres d'intérêt. Généralement, au Niger, on présente aux candidats le plus souvent deux centres d'intérêt. Mais j'ai dit, il se pourrait qu'on ait deux à trois centres d'intérêt. Comme il a dit dans une démarche thématique, maintenant, l'élève il est obligé d'organiser son travail du centre d'intérêt 1, ensuite au centre d'intérêt 2, ou bien s'il y a un troisième pour en finir. Voilà ce qui est du développement. Mais le plus souvent, ce que les candidats ou bien les élèves ratent, c'est la capacité d'interpréter. Ils sont capables de relever des expressions intéressantes dans le texte, de trouver l'analyse, mais souvent, ils sont généralement faibles en interprétation de ces faits. Et souvent, il y a certains candidats qui n'arrivent pas à faire des transitions entre les différentes parties du développement. Donc, c'est un handicap qu'il faut souligner entre-temps. Et la dernière partie qui est la conclusion, qui elle aussi comporte trois points. Le premier point, c'est le bilan, la somme, si vous voulez, des centres d'intérêt, en résumé. Ensuite, la prise de position qui est différente de celle qu'on fait en dissertation, qui ici consiste à faire en fonction du style ou bien de certains procédés littéraires, de faire un peu l'éloge de l'auteur et si possible aussi de les rapprocher à un autre penseur et un travail sur la même thématique. Et ensuite, l'ouverture. Voilà, de manière brève, les différentes étapes d'un commentaire composé.
Monsieur Joseph Aboubakar, vous appelez cela méthodologie. Comment vous enseignez cette méthodologie?
Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la méthodologie, elle est enseignée, ou on la trouve également dans les manuels de français. Et la méthodologie du commentaire composé, elle est différente de celle de la dissertation, de la contraction des textes, de la discussion. C'est une méthode à part. Elle est enseignée également à l'université. Et la méthode du commentaire composé, mon collègue a eu à le dire, ça fait partie de la méthodologie, les éléments méthodologiques de l'introduction, la mise en contexte ou l'entrée en matière, la présentation du texte, l'annonce du plan. Et le développement consiste à développer le ou les centres d'intérêt. Généralement, il y en a deux. Et enfin, la conclusion, le bilan récapitulatif, l'intérêt littéraire et l'ouverture. Voilà. Et maintenant, peut-être, et c'est la démarche méthodologique ou la démarche à suivre pour traiter un sujet de commentaire composé. Quelle est la démarche à suivre? Tout texte, d'abord, il faut le lire et le relire pour le comprendre. D'abord, la lecture et la relecture du texte. On a, deuxième élément, la compréhension du texte. Pour comprendre le texte, d'abord, il faut dégager le thème du texte. Le thème du texte, ça signifie de quoi parle le texte, de quoi il s'agit. Le thème ne suffit pas, il faut ajouter l'idée générale. Quelle est l'idée générale du texte? Par exemple, je donne un exemple. Le texte nous parle de la ville. Il s'agit donc de la description de la ville. Comment est la ville? La ville est atypique, sale, par exemple. C'est une idée générale. Donc, la ville, c'est un thème, mais qu'est-ce qui est dit sur la ville? Qu'est-ce qui est dit sur le thème? Cela, c'est l'idée générale. C'est important. Et toujours dans la compréhension du texte, il faut dégager la tonalité. Qu'est-ce qui caractérise le texte? Sa tonalité, le type du texte, c'est important. Parce qu'on a des textes narratifs, des textes descriptifs, des textes poétiques à commenter. Il y a plusieurs types de textes. Mon collègue a rappelé les différents types de textes. Donc, bien avant, il est nécessaire que l'élève acquiert ces différentes parties-là sur la typologie des textes. Il est important qu'il comprenne les différents types de textes pour pouvoir commenter un texte soumis à son analyse. Et après, il y a un troisième élément. Il doit dégager les différents éléments du paratexte. Le paratexte, c'est tous les éléments qui sont autour du texte. Le titre, le libellé, c'est dans le libellé qu'on trouve les centres d'intérêt. Le texte est toujours accompagné d'un libellé qui se focalise sur un ou plusieurs centres d'intérêt. Un, deux ou trois centres d'intérêt, généralement. Après, je vous ai dit le titre, le libellé, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la maison d'édition, la date de publication. Ce sont des éléments qu'on appelle les éléments du paratexte. Il doit les relever au brouillon. Il doit les relever, dans un premier temps. Et il est important, si le texte a un titre, de mettre le titre entre guillemets. Dans l'introduction, on met le titre entre guillemets. Mais le titre de l'œuvre, on le souligne. Voilà ce qui se fait. Ce qui ne se fait pas, j'ai remarqué dans les copies d'élèves ou des candidats de leur production écrite, ils soulignent et en même temps, ils mettent l'œuvre entre guillemets. Ça ne se fait pas. Dans aucun manuel, il n'est dit de souligner et de mettre l'œuvre entre guillemets. Les deux à la fois, non. Quand c'est l'extrait, on met l'extrait entre guillemets et le titre, on souligne. Voilà comment ça se fait. On ne souligne pas le nom de l'auteur. Je vois des élèves qui le font. Ça ne se fait pas. Donc, il est important pour le candidat, dans cette troisième phase, de souligner les centres d'intérêt qui lui ont été proposés. Si c'est un, si c'est deux, il doit souligner ces centres d'intérêt-là. Si c'est un seul centre d'intérêt, il peut l'éclater dans le développement.
Expliquez-nous un centre d'intérêt, ça veut dire
quoi? Un centre d'intérêt, c'est un thème dominant, puisque le commentaire, c'est l'analyse interne d'un texte. C'est un des thèmes du texte. C'est pourquoi il peut changer. C'est pourquoi vous voyez, dans le libellé, c'est une consigne, c'est une proposition. Le libellé est une consigne, c'est une proposition. On peut changer, on peut modifier les centres d'intérêt. On utilise ces verbes-là généralement. Vous pourriez, par exemple. C'est important. Vous pourriez, par exemple. Cela veut dire, il peut changer. Il n'y a pas de contrainte.
Le candidat peut changer.
Peut modifier les centres d'intérêt, peut changer les centres d'intérêt qui lui sont proposés. Encore faut-il qu'il apprenne à changer les centres d'intérêt. Ça, c'est important. Voilà. Et après, il doit faire une étude détaillée du texte. Il peut faire un tableau, qu'on appelle le tableau de lecture méthodique, ou d'analyse détaillée, ou d'étude détaillée, ça dépend du prof ou du manuel. Il peut faire un tableau en dégageant, bien sûr, les champs lexicaux, les procédés stylistiques ou les figures de style, les procédés grammaticaux. Oui, et faire un tableau à partir des centres d'intérêt. Il peut faire un tableau à 4 colonnes. Une colonne pour les centres d'intérêt, une pour les instruments d'analyse littéraire, les champs lexicaux, les figures de style, les procédés grammaticaux, les temps utilisés dans le texte, ainsi de suite.
Et ça nécessite une bonne maîtrise de la langue.
Une bonne maîtrise, bien sûr, de la langue, forcément. Et une troisième colonne pour les indices du texte, les indices textuels du texte. Et après, une dernière colonne pour les interprétations. Et c'est là la difficulté. Ils arrivent, bien sûr, à comprendre les figures de style, les procédés grammaticaux, ainsi de suite. Même si d'autres confondent l'adverbe et l'adjectif, quand même, beaucoup d'entre eux arrivent à repérer ces instruments d'analyse. Mais la grande difficulté, c'est de l'interprétation. Comme mon collègue a eu à le dire, c'est de l'interprétation le problème.
Qui consiste à faire quoi concrètement?
Et interpréter, ça signifie c'est dégager le sens de chaque indice, de chaque figure de style, chaque procédé utilisé dans le texte. Il faut interpréter. Quel est le sens explicite de l'expression utilisée ou de la métaphore utilisée, du terme utilisé? Quel est le sens aussi implicite, le sens caché? C'est important de dégager les différents sens du texte. Ce n'est pas une définition. Non, non, non. C'est une interprétation. Une interprétation consiste à dégager le sens explicite et implicite du texte. Et ce n'est pas pour rien que nous enseignons les présupposés et les sous-entendus dans la pratique de la langue. Et après avoir fait ce tableau-là d'études détaillées, il doit élaborer un plan. L'élaboration d'un plan consiste à dégager les différentes parties qui seront développées dans le corps du devoir. On doit partir des centres d'intérêt. Le premier centre d'intérêt, on le subdivise en idées secondaires. On fait une transition dans le plan et on entame le second centre d'intérêt, lui également subdivisé en sous-parties. Voilà comment ça doit se faire. Et l'élaboration du plan, il y a le plan général. S'il y a deux centres d'intérêt, bon, premier centre d'intérêt, deuxième centre d'intérêt, il y a le plan détaillé. Le plan détaillé consiste donc à donner ces idées secondaire, la grande 1, par exemple, un exemple, la description de la ville. Bon, la grande 1, la description de la ville, ça c'est centre d'intérêt numéro 1. Idée secondaire, 1, la saleté de la ville. Et deuxième centre d'intérêt, par exemple, deuxième idée secondaire. Et quoi encore? Une vue chaotique de la ville ou de la cité. Deuxième centre. Après, on entame le deuxième centre d'intérêt, par exemple, les sentiments de l'auteur. Un, sentiment de l'auteur, le dégoût éprouvé par l'auteur. Donc, vous voyez, bon, c'est juste un exemple que je donne.
Un exemple, bien sûr.
Un exemple de plan.
Il peut ne pas y avoir de dégoût.
Voilà, il peut ne pas y avoir de dégoût. Il peut y avoir, bon, sentiment d'amour à l'égard de sa ville, voilà. Ou l'éloge des citadins, il peut faire leur éloge parce qu'il se comporte bien, c'est possible. Donc ça dépend comment le candidat a perçu ou a analysé le texte, comment il a compris, tout dépend. Mais il faut un plan. Comme dans toute construction, il faut un plan pour réussir la construction d'une maison, d'un bâtiment, il faut un plan. Mais malheureusement, ils ne font pas de plan avant la rédaction du développement. Oui.
Et vous le constatez quand le plan n'est pas fait?
On le constate, puisque on remarque, oui, dès le début du développement, normalement, le candidat doit annoncer le premier centre d'intérêt. Pour si, par exemple, c'est la description de la ville, il doit annoncer dès le début qu'il va analyser la description de la ville. Et après, avec des parties, des sous-parties qu'on doit remarquer, des paragraphes. Il doit construire le paragraphe. S'il a bien fait le plan détaillé, et ce plan-là va se reproduire dans son développement. Ça se reflète dans son développement. Donc, son développement, la rédaction de son développement reflète le plan qu'il a élaboré au brouillon. Voilà. Après, bien sûr, l'élaboration du plan, on passe maintenant à la rédaction du devoir, du commentaire. L'introduction, on commence toujours par la mise en contexte.
On ne commence pas un commentaire par dire « ce texte soumis ou tiré de nous ». Non. Nous voyons ça. Quel texte, ce texte? Non, il faut toujours commencer. Si le texte nous parle de la ville, on peut s'inspirer d'un courant littéraire. On peut également commencer par une opinion avant de présenter le texte. On peut commencer même par la définition de la ville. C'est possible de commencer par là, par la mise en contexte. On peut commencer par un courant littéraire. C'est le symbolisme. Si par exemple, on donne un texte de l'Albatros de Baudelaire, l'élève peut commencer par la définition de ce courant littéraire là qu'on appelle le symbolisme. Il peut commencer par là. Si on donne un texte des Mains de l'Aube de Victor Hugo, il peut commencer également par la définition du romantisme. Si on donne un texte, un extrait de Ferdinand Oyonnax, Le vinaigre et la médaille de Ferdinand, il peut commencer par la colonisation ou l'anticolonialisme des écrivains africains avant de présenter l'auteur et son œuvre. Et après, l'idée générale, enfin, il annonce les différents centres d'intérêt. Vous voyez l'introduction. Et après, le développement, c'est en réalité, ce développement se fait à partir du plan élaboré déjà au brouillon. Et on doit avoir des différentes parties de ce plan. Premier centre d'intérêt, deuxième centre d'intérêt, s'il y a un troisième, d'accord, c'est bon. Il le réduit s'il y a un troisième. Oui. S'il y a deux, bon, il se limite à ces deux-là, bon. Ces deux centres d'intérêt. Et enfin, la conclusion. La conclusion, c'est une partie importante. Malheureusement, ces candidats, dans la précipitation, ils négligent les différentes parties de la conclusion. La conclusion du commentaire doit comporter trois phases, trois parties. Le bilan récapitulatif, donc c'est le bilan de la réflexion menée, ou le bilan de l'analyse des différents centres d'intérêt, c'est le bilan de la réflexion. Et l'intérêt littéraire, il peut rappeler les différents procédés utilisés dans le texte, le style de l'auteur, la richesse du texte. Qu'est-ce qui fait sa richesse? Parce que l'auteur a utilisé trop de répétitions, ou trop de métaphores, ou de comparaisons. Ça dépend. Oui, quand on prend par exemple un certain Ahmadou Kourma, on voit qu'il a un style différent. Oui. Il utilise beaucoup d'images. Si l'élève, on lui donne un texte de ce genre d'Ahmadou Kourma, il rappelle que non, il y a beaucoup d'images et le style est vraiment différent. C'est important qu'il dise le style utilisé. Et il peut montrer également la portée de l'œuvre, l'intérêt littéraire. Quel est l'impact de cette œuvre dans l'évolution des idées, dans l'évolution des mentalités? Il peut le dire. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire de montrer la portée là. Peut rappeler, s'il ne peut pas, c'est important, mais s'il ne peut pas, qu'il ne le fasse pas. Et enfin, l'ouverture. Généralement, les enseignants disent que l'ouverture, nous le disons qu'elle est facultative. Mais j'ai l'habitude qu'elle n'est pas
obligée. L'élève n'est pas obligé.
Mais j'ai l'habitude de dire que si j'ai deux copies, une copie, il y a l'ouverture qui est bien faite, et une copie, il n'y a pas l'ouverture, ce n'est pas la même chose. L'autre qui a fait l'ouverture, qui a bien fait l'ouverture, il a bien sûr introduit, bien développé et bien fait l'ouverture, cette copie a plus de poids que l'autre qui n'en a pas fait. Mais si on dit, nous disons qu'elle est facultative, mais elle est importante quand même. Importante. Et dans l'ouverture, généralement, en commentaire, on fait un rapprochement. Un rapprochement avec une œuvre identique, qui a un thème identique ou opposé. C'est possible. Si par exemple, le texte, un texte descriptif, le bac 2013, On décrit la pluie, par exemple. Mmh. Si l'élève fait l'ouverture avec un texte où également on parle de la pluie, un autre auteur, c'est bon. Ou il peut parler d'un autre phénomène naturel, d'une autre réalité naturelle, par exemple la sécheresse. Il peut faire le rapprochement. Et cette œuvre, on évoque la pluie, mais quant à, je ne sais pas, Ibrahim Issa, dans La vie et ses faces ici, évoque également le Sahara. Oh, je ne sais pas. Un exemple de ce genre. C'est possible de faire un rapprochement dans la conclusion.
Dans l'extrait de texte qu'on donne au bac, surtout pour le commentaire composé, les élèves disent souvent que c'est surtout les mots qui sont très difficiles.
Mais il vaut mieux ne pas choisir, prendre le sujet qu'on n'a pas compris. Il y a trois sujets. L'élève n'est pas obligé de prendre le sujet tant qu'il n'a pas compris. Il y a la contraction de texte, il y a la dissertation. Sinon, il creuse lui-même sa propre tombe. Il faut, voilà.
Ce n'est vraiment pas facile, hein, monsieur Sagaouba. On dit aussi que pour arriver à bien faire un commentaire composé, il leur est recommandé de savoir aussi ce que c'est la lecture méthodique. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est vrai, il existe plusieurs différents types de lecture, mais ici, ce qui est retenu au programme, c'est la lecture méthodique. Mm-hmm. Donc, il y a la lecture analytique, il y a la lecture linéaire, bon, plusieurs, la lecture explicative. Donc, mais bon, nous, ici, c'est basé dès le collège et le lycée, c'est la lecture méthodique. Mm-hmm. Et la lecture méthodique, c'est quoi? C'est une lecture qui est centrée sur les axes de lecture, les hypothèses de lecture. Donc, déjà, l'enfant, il est obligé, dès la sixième, on commence à initier les enfants à la lecture méthodique. Maintenant, jusqu'au lycée, si vous ne maîtrisez pas la lecture méthodique, c'est vraiment un problème. C'est une lecture à travers laquelle on ne va pas lire le texte de manière linéaire, mais on va sur des hypothèses de lecture, des pistes de lecture, des axes de lecture. Et à travers ces axes de lecture, maintenant, en fonction, comme il a dit tout à l'heure, des champs lexicaux, on peut déterminer des sous-thèmes dans le texte. Donc, il a pris tout simplement un texte sur la ville. Et dans la ville, on peut voir ces différents pans. Et maintenant, en fonction de quelques champs lexicaux dominant le texte, on peut trouver, comme il a dit, sa librité. On peut trouver un peu la structure de la ville dans le texte. Hein? Donc maintenant, en fonction de ça, on procède à des regroupements en fonction de ces sous-thèmes. Maintenant, c'est comme ça qu'on amène les enfants toujours d'aller à travers les champs lexicaux. D'accord? Un champ lexical, on le sait.
C'est l'ensemble des mots utilisés.
Voilà, qui renvoie à la même notion. Donc voilà un peu. D'accord? Donc ça, c'est la seconde. Hein. Les champs sémantiques, les champs lexicaux. Mm-hmm. Bon, c'est pour ça que j'ai dit souvent, quand en terminale, l'enfant est en train de tâtonner, on dit qu'on se demande, il a passé par où pour être ici avec nous. Mm-hmm. Donc il y a des questions qu'on se pose. Donc voilà, la lecture méthodique, vraiment, il faut une parfaite connaissance de la lecture méthodique. Il l'a évoqué. Maintenant, après les champs lexicaux, maintenant, on regarde les procédés stylistiques, maintenant, ou bien grammaticaux, ou bien...
Syntaxiques.
Mm-hmm. Maintenant, pour pénétrer le texte. Maintenant, à partir de ce que les enfants vont relever, on va vers l'interprétation. Moi, je crois bien que déjà, avant même qu'on ne soit en terminale, déjà en seconde, on est familier avec certaines mêmes figures de style. En première aussi, on a approfondi. Donc maintenant, on suppose qu'en terminale, tout candidat, il est prêt, il est bon pour faire un commentaire composé. La lecture méthodique, vraiment, elle est importante pour réussir un bon commentaire composé. Donc, si l'élève, il a des difficultés à reconnaître la typologie des textes, la typologie, comme tout à l'heure qu'on l'a évoqué, les textes, les différents types de textes, on les voit aussi dès la sixième. Maintenant, jusqu'en terminale, au moins, c'est qu'on doit connaître les textes descriptifs, narratifs, j'ai dit injonctif,
sonnel, argumentatif,
informatif. Même si c'est pas un dialogue, même si c'est un monologue, vous voyez, un candidat doit être capable de reconnaître un texte. Récemment, j'ai fait un commentaire composé sur un texte informatif. Ça m'a plu parce que c'est une exception. J'ai trouvé un texte comme ça. Et hier même, j'ai exploité un texte, un monologue. Et j'ai aimé. Parce que c'est comme ça, vous trouvez un monologue, c'est déjà bien. Au moins, pour ces élèves, c'est une chance. Là où quelqu'un parle seul, sans être fou, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir un texte comme ça.
Bien sûr.
Donc voilà, un peu, j'ai dit, si les candidats ne maîtrisent pas les typologies des textes, ça serait un problème. Mm-hmm. Et la tonalité aussi, comme il a l'évoqué, c'est très capital. Parce que d'office, comme vous l'avez dit sur le plan, si dès l'entrée en matière, dès l'introduction, vous ratez la typologie des textes, la tonalité du texte, l'auteur son œuvre. Regardez, imaginez un candidat qui ne sait pas qui Camara, là, il n'est pas nigérien. Mais c'est catastrophique. J'ai toujours dit aux candidats, si vous ne connaissez pas la nationalité de l'auteur, il faut vous abstenir d'inventer. On peut réussir un commentaire composé sans mentir.
Il arrive que des candidats disent que Camara, là, il est nigérien.
Moi, j'ai vu un cas, une copie, où dit Camara, la nationalité nigérienne. Mais c'est la catastrophe. Mais je me demande, le camarade de nationalité nigérienne, j'ai dit c'est la catastrophe.
Ça veut dire que chaque fois, il est demandé au candidat de trouver la nationalité de l'auteur.
Non, il n'est pas obligatoire. On ne peut pas connaître tous les écrivains. Ouais. C'est une plus-value. C'est une valeur ajoutée pour le candidat.
Pour le candidat.
On sait qu'il ne se limite pas au cours. Mm-hmm. Il fait des recherches, il a des informations complémentaires.
Ouais.
Donc, c'est par rapport à l'auteur.
Mais s'il ne connaît pas, il ne doit pas inventer.
Il ne doit pas inventer. C'est ça que je suis en train de conseiller. Apparemment, avant d'arriver au conseil. Vous contentez de ce que le texte vous propose. Oui. À partir des informations, du paratexte, le minimum d'informations que vous avez sur l'auteur, ça peut vous aider à réussir un bon commentaire composé sans mentir. Voilà, j'ai dit déjà l'entrée en matière ou bien depuis l'introduction, comme si vous faites, vous réussissez votre introduction sur le brouillon et la conclusion, ça déjà donne une bonne image du candidat. Mmh. Et maintenant, le plan, comme il l'a dit, beaucoup d'élèves ne font pas de plan. Le plan, c'est la structure de votre travail. Vous dites, voilà, je vais à un point A pour terminer à un point C ou bien T. Vous êtes libre. Maintenant, vous avez fait votre plan, votre structure, et vous allez respecter votre plan. Et en prenant votre même copie, on sait que cet enfant, il travaille avec méthode. Et vous allez voir que le travail, il ne se répète plus. Il n'hésite pas. Et on voit l'harmonie dans la construction de son texte. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette exercice.
Merci à vous, Joseph Aboubakar. On parle aussi de démarche analytique, peut-être qui n'est pas enseignée au Niger. Ça veut dire quoi?
On n'enseigne pas cela. Mais c'est qu'on ne donne même pas de libellé, généralement, dans la lecture analytique.
Ça, c'est souvent dans le programme français.
Dans le programme français. De toute façon, nous enseignons la lecture méthodique. Même s'il y a des points communs, il y en a, c'est toujours l'analyse de texte, en tout cas. C'est toujours l'analyse de texte. Voilà. Mais dans la lecture méthodique, on voit que ce sont les élèves eux-mêmes qui participent, qui donnent les réponses à partir du texte. Puisque déjà, on a posé les bases au collège, eux-mêmes, ils arrivent à répondre facilement.
Ça veut dire que démarches du commentaire composé peuvent varier d'un pays à un autre.
Oui. Ce qu'il faut comprendre pour la lecture méthodique, j'ai l'habitude de dire en classe que la lecture méthodique est la petite sœur du commentaire composé. Puisqu'il faut passer par la lecture méthodique pour bien comprendre un texte. Pour bien analyser, pour bien faire le commentaire composé, il faut passer par la lecture méthodique. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'elle est la petite sœur du commentaire composé. Oui. Et maintenant, nous, c'est vrai, les méthodes diffèrent d'un pays à un autre, mais il faut comprendre de manière générale, le commentaire est le même. Puisque je vois, par exemple, il y a des professeurs qui commencent par juste la présentation du texte, au lieu de commencer par l'entrée en matière. C'est là que je vois la différence. Mais quand on prend dans l'analyse, c'est la même chose. C'est toujours le commentaire dans l'analyse. Quand nous prenons nos manuels, c'est la même manière de lancer, c'est la même technique.
Ce que je peux ajouter,
Monsieur Issa Gaba,
c'est vrai, ça dépend des pays. Comme il a dit, bon, à la française, c'est la lecture analytique. Et nous, ici, à la, ce qui est retenu par le programme, c'est la lecture méthodique. Mais maintenant, des deux, que ce soit la lecture analytique ou bien méthodique, on aboutit toujours à un commentaire composé.
Mais un élève français, ça veut dire est-ce qu'il peut composer et pouvoir s'en sortir s'il fait la lecture méthodique?
Ils peuvent composer et réussir au même rendement. Et de la même façon que nos candidats aussi peuvent composer et réussir le même rendement. La preuve, il n'y a pas de différence. Il y a des élèves qui font les deux bacs. Il y a des élèves qui font en même temps après le bac. Ils continuent en France. Ils n'ont pas de difficulté aussi. Donc, moi, je crois que c'est la même chose.
Pour résumer, M. Joseph Aboubakar, quelles sont les compétences que doivent avoir les élèves pour réussir un commentaire composé?
L'élève doit forcément connaître la typologie des textes, comprendre également la versification française. C'est important. Et nous enseignons tous ces chapitres. Et l'élève doit avoir des connaissances littéraires. Nous enseignons l'histoire littéraire. La littérature africaine, la littérature française, nous les enseignons en classe. Et tous ces prérequis permettront à l'élève d'arriver, bien sûr, en première. Puisqu'en seconde, nous ne faisons pas le commentaire composé. Nous ne faisons pas le commentaire, c'est le résumé.
Discussion.
Et la dissertation. Voilà. Si nous posons les bases en seconde, déjà, ils ont vu certains éléments, certains chapitres de le collège. Donc, arrivé en première, s'il a tous ses acquis, il pourra bel et bien commenter. Le candidat pourra bel et bien commenter. Voilà. Donc, il doit avoir des connaissances en langue, des connaissances en littérature. C'est extrêmement important. Et la méthodologie pour bien commenter un texte.
Monsieur Issa Gaba, quels sont les critères officiels de correction d'un commentaire composé au baccalauréat?
Les critères officiels de correction d'un commentaire composé, c'est l'évaluation. Et l'évaluation, ça cause problème partout au monde, et précisément chez nous, où beaucoup ne sont pas formés en docimologie. Docimologie, j'ai l'habitude de faire un article à la fac ça a tiqué même les anciens chercheurs, mais c'est une réalité. D'accord ? Beaucoup n'ont pas des notions de dosimologie. Comment évaluer un cours ? Comment évaluer une leçon ? C'est vraiment tout un chapitre. Et on doit l'enseigner. Malheureusement, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait dans ce pays. C'est ce que je regrette. Et je le dis au plus haut niveau. Et heureusement que maintenant, au baccalauréat, on se réunit en UP, unité pédagogique.
Bien sûr.
Certainement, voilà.
Maintenant, un ensemble d'enseignants.
Voilà, oui, maintenant, qui vont corriger la même matière. Et maintenant, on discute comment déterminer le barème. Parce que si on dit on va faire une évaluation objective, vous allez définir au moins 7 ou 8 critères avant d'attribuer une note.
Ces critères, les principaux.
D'abord, il y a la syntaxe, la construction des phrases de l'élève. Il y a les fautes d'orthographe, d'accord, de grammaire. Tout ça, là, il faut définir ces... D'accord. Voyez un peu, maintenant, le respect de la méthodologie. D'accord. La présentation de la copie. Tous ces différents aspects, vous devez les coefficienter d'abord. Vous voyez que c'est complexe. Maintenant, bon, de manière générale, c'est ce qu'il faut d'abord avoir comme dispositif avant d'aborder sa copie. Maintenant, déterminer maintenant entre collègues, si l'élève réussit l'introduction, combien de points nous pouvons affecter à l'introduction et à la conclusion et au développement. Maintenant, pour alléger la tâche le plus souvent, quand c'est un texte de commentaire composé qui présente deux centres d'intérêt, moi, le plus souvent, j'affecte 5-5 partout, à tous les niveaux. 5 à l'introduction, premier centre d'intérêt 5, deuxième centre d'intérêt 5, et ensuite le dernier, maintenant 5. Maintenant, en fonction, en respectant tout ce que je viens d'énumérer, maintenant, les notes peuvent varier. Et si la copie est parfaite, pourquoi ne pas donner un 17, un 18? Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit le bicourou, ce n'est pas notre sang. Si vraiment la copie elle est bonne, on était bien. Parce que vous, en tant qu'examinateur, en tant que correcteur, ça serait une fierté parce que vous pouvez montrer la copie partout que cet élève, c'est un bon élève. Voilà.
Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un élève peut avoir une mauvaise note en commentaire composé, M. Joseph Aboubakar, au baccalauréat? Il y en a qui finissent par se retrouver avec des mauvaises notes, bien qu'ils pensent avoir bien travaillé. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Bon, on ne peut pas être juge et parti. Malheureusement, ces élèves-là... pense avoir bien fait. Mais l'enseignant, c'est lui le spécialiste de la matière. C'est lui qui s'y connaît. Et j'ai l'habitude de dire que le fond du commentaire composé, c'est le développement. Beaucoup d'élèves arrivent à bien introduire. Quand on enseigne les trois parties là, de l'introduction, ils y arrivent. Le grand problème, c'est le développement. Or, le fond du commentaire, c'est le devoir. Là où il doit montrer toutes ses capacités, les capacités expressives, méthodiques, c'est dans le développement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'élabore pas un plan, donc il n'arrive pas à bien développer. Quand l'élève introduit, déjà l'introduction, je dis oui, c'est bon. Quand c'est très bon, je donne une note, par exemple 5, c'est bon, l'introduction. Mais je tourne la copie. Je remarque qu'il n'a fait qu'accumuler les indices du texte sans les interpréter. Cela veut dire qu'il n'a pas exploité le texte. Il n'a pas exploité les centres d'intérêt qui lui ont été proposés ou les centres d'intérêt qu'il a choisi lui-même. Ils accumulent les indices et n'interprètent pas. Ou bien, on a l'impression que pour eux, le commentaire est un catalogue. On ne fait que réciter des indices des textes.
Ce qu'on a déjà vu dans le texte.
Bien sûr. Ils mettent entre guillemets et c'est tout. Ils donnent une seule phrase, pour eux, ils ont interprété. Ils vont mettre l'ensemble et ils interprètent une seule phrase. On a deux fois des candidats qui ne font que énumérer les figures de style. Comme si le commentaire consistait à énumérer les différentes figures de style ou les différents procédés grammaticaux. Si l'élève a relevé les indices du texte, les procédés stylistiques ou les instruments d'analyse littéraire, qu'a-t-il fait avec tout cela? C'est pour pouvoir interpréter le texte. C'est pour pouvoir expliquer le texte. C'est là le bas blesse. Il n'y arrive pas.
Il y en a qui finissent par dire que je n'ai pas été compris par mon enseignant et qui pensent même l'enseignant...
Mais c'est pourquoi je vous ai dit on ne peut pas être jugé et parti. Oui, sinon il se corrige lui-même. Il ne peut pas le faire. Voilà.
Il y en a qui disent que le commentaire et composé est très difficile, que leur répondez-vous?
C'est une question d'exercice. Si l'élève s'exerce, il pose des questions à son enseignant, il pourra bel et bien réussir. C'est une question d'exercice.
Sauf que si la personne travaille bien, dans tous les cas, elle pourra s'en sortir.
Avec un peu de volonté, de persévérance, il pourra arriver à bien commenter un texte. Ce n'est pas de la magie.
C'est une épreuve qui est donc faite en 4 heures de temps. Quel est l'intérêt qu'un élève a à savoir faire un bon commentaire composé dans le cadre de ses futures activités littéraires, M. Issa Gagba?
L'intérêt qui existe pour un candidat de réussir cet exercice, les sciences humaines, comme toutes les sciences sociales, même juridiques, comme il a évoqué, sont faites le plus souvent à partir des interprétations des faits. Et nous sommes en train d'inscrire ces futurs juristes ou bien ces futurs sociologues spécialistes dans une logique d'analyse. Et si l'élève, dès la terminale, n'a pas un certain niveau ou bien capacité d'analyse, je ne pense pas si même dans le futur, il peut faire grand-chose. Donc, les enfants, ils ont intérêt. C'est le malheur qu'aujourd'hui, ils sont allergiques à la lecture. Et on ne peut pas réussir n'importe quel exercice littéraire tant qu'on ne lit pas. Voilà. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est allergique même à la lecture. Et malheureusement, c'est une question de choix, de goût, de volonté que certains élèves se présentent au bac littéraire. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent les enfants se poursuivent les mathématiques, les physiques, chimie, c'est parce qu'ils ne sont pas réussis, ils veulent se réfugier en série littéraire. Mais malheureusement, on ne peut pas réussir comme ça. Il faut une certaine volonté, sincèrement, si on est candidat, et pour tout candidat qui veut réussir, moi je crois bien, il n'est pas tard pour bien faire. Maintenant, comme on a eu à le dire au début, ça dépend. Vous avez 3 sujets, c'est à vous de voir là où vous pouvez avoir plus de points, et vous choisissez votre sujet. Comme vous l'avez dit, vous avez 4 heures et ce n'est pas par hasard 4 heures.
Merci à vous, M. Issa Gagba. M. Joseph Aboubakar, quel conseil donner aux candidats pour terminer, puisque nous sommes presque à la fin de cette émission?
Oui, pour réussir le devoir du commentaire composé, il faut s'exercer. Il faut également de la persévérance, de la volonté. Il est important également que le candidat maîtrise le vocabulaire d'analyse littéraire. C'est quoi le vocabulaire? Il y a des mots qu'on utilise généralement en commentaire composé. L'auteur décrit, l'auteur met en exergue, l'auteur met en évidence. La toute première approche du texte montre que, ainsi de suite. L'auteur témoigne. Donc, c'est important que le candidat maîtrise le vocabulaire d'analyse littéraire. Et d'utiliser également de manière adéquate les connecteurs logiques les mots de liaison dans le développement.
Merci à vous, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème le commentaire composé en français, signification, atout et méthodologie pour le réussir. Nous avons bien compris que c'est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup d'efforts de la part des candidats au baccalauréat. C'est une épreuve qu'il faut traiter avec méthodologie. Il faut également avoir une bonne maîtrise de la langue française. Les enseignants présents ont recommandé aux élèves de beaucoup lire et d'être assidus au cours. Nous disons pour finir bonne chance à ces candidats au nombre de plus de 64 000 qui affronteront dès le 10 juillet prochain les épreuves écrites de la session 2019 du baccalauréat au Niger. Bonne chance également aux candidats des autres examens de fin d'année. Nous étions en compagnie de M. Joseph Aboubakar, enseignant de français au complexe scolaire privé Elim de Niamey, et M. Issa Gagba, enseignant de français également au lycée Issa Korombé de Niamey. Merci à vous deux pour votre participation à ce forum du studio Kalangou. Merci également à vous, chers auditeurs. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation. Rendez-vous demain à la même heure pour suivre un autre thème du forum du studio Kalangou. Au revoir.